Cette rencontre entre Jésus et des passants a un peu des allures de discussion du café du commerce. Alors on dirait plutôt de chat sur réseau social, hein. Traduisez, hein, si on veut faire brancher. On raconte, on commente, on interprète l'actu. On prend d'ailleurs des airs de spécialiste. On pèse, et puis si on peut, au passage, on influence. Ici, une répression violente par les forces de police envoyées par Pilate. Là, l'effondrement d'une tour à Siloé. Ici, un tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui enlève plus de 40 000 vies. Là, en Grèce, un train qui en percute un autre. Et la sagesse populaire est experte dans cet art qui consiste à donner du sens à tout ce qui arrive. Elle s'empare du fait divers, elle le passe au crible de sa perspicacité légendaire et elle trouve l'explication. Et depuis l'effondrement de la tour de Siloé, reconnaissez, sœurs et frères, que le monde n'a pas beaucoup changé. Les immeubles s'écroulent toujours, mais surtout les gens causent. Et quand je dis les gens, je pense à nous. Parce que nous avons besoin d'explications à tout ce qui arrive. Parce que nous n'aimons pas le désordre, l'arbitraire, l'inexplicable, l'imprévisible. Parce que nous préférons dire n'importe quoi plutôt que de supporter le silence. Et emporté par ce besoin impérieux de comprendre, de déchiffrer le monde, nous donnons sens à ce qui n'a pas de sens. Par exemple, dans les années 80, quand le sida a emporté tant de vies, certains se sont cru autorisés à dire que c'était la punition de Dieu contre les homosexuels. Voilà une explication. Pour le Covid-19, c'était plus compliqué. Une nouvelle punition divine à l'échelle planétaire, mais alors contre qui cette fois? Le genre humain? Ah, attention. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il n'enverrait plus jamais le déluge sur la terre? Ce même Dieu de la grâce qui fait dire à son peuple, par le prophète Ézéchiel, qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Et alors, que dire du tremblement de terre qui vient de ravager la Turquie et la Syrie, dont chaque jour alourdit le chiffre des personnes décédées? Après les homosexuels, Dieu en aurait-il après les musulmans, maintenant? Il réglerait ses comptes, là, un petit peu avec eux? Et les chrétiens syriens et turcs qui ont péri dans cette catastrophe? Et nos amis chrétiens qui ont été emportés par la pandémie? Je suis sûr que vous en connaissez. Des dégâts collatéraux au plan divin? Vous entendez dans ma voix beaucoup de cynisme. Ces réponses rapides posent beaucoup plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions. Je trouve qu'elles nous présentent un Dieu terrifiant, un Dieu furieux et vengeur qui n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. J'ai entendu des survivants qui témoignaient fièrement que Dieu les avait sauvés, épargnés. Oui, mais Pourquoi n'a-t-il pas sauvé mes enfants et mon mari ? Pleurait cette femme devant une caméra de télévision. Cette mère de famille en larmes, rescapée elle aussi. Et à l'inverse, certains rescapés se sentent chargés d'une culpabilité écrasante. Comme cette amie libanaise, membre de l'église protestante de Beyrouth, elle me raconte, pendant la guerre du Liban, elle prend le bus. Elle s'assoit côté fenêtre. Un jeune étudiant en médecine monte dans le bus et vient s'asseoir près d'elle. Et l'étudiant lui demande s'il peut se mettre à la fenêtre parce qu'il descend plus tard, plus loin. Ils échangent leur place. Une voiture les dépasse, elle mitraille le bus, l'étudiant est tué sur le coup, elle est rescapée. Et elle me dit, c'était ma place. Pourquoi ce jeune a-t-il été tué à ma place ? Et à cette question, vous trouverez toujours des amis de Job pour venir vous expliquer que ce qui arrive est une juste punition de Dieu, du Dieu omniscient qui connaît les pensées secrètes et qui répond aux grands péchés des hommes. Il y a une théologie sous-jacente à ces explications, une théologie toute simple, il n'y a pas besoin d'étudier des années à la fac pour en faire le tour, hein. Ceux qui sont bien, les gens honnêtes, les hommes droits, vont être sauvés. Et ceux dont le cœur est mauvais vont être dégommés, écrasés, condamnés. Voilà. Il ne faut même pas une heure de cours de théologie pour comprendre comment ça marche, hein. Et c'est cette vision du monde et de Dieu qui est en arrière-plan de la question de la tour de Siloé. Mon amie libanaise n'arrivait pas à se satisfaire des réponses que cette théologie de la rétribution lui apportait. Elle me disait « Je n'étais pas meilleur que lui. Pourquoi lui, pas moi ?» Et pour répondre à la question du pourquoi les massacres, pourquoi les morts accidentelles, pourquoi le cancer, pourquoi... Jésus ne va pas jouer les influenceurs de service. Ceux qui ont toujours un métro d'avance, vous savez, dans les discussions de comptoir. Ceux aussi que le prophète Jérémie invective durement. Hein. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. C'est une parole du prophète Jérémie. Au lieu d'apporter sa réponse... Jésus va poser sa question. Il va interroger notre rapport aux réalités. De quel point de vue nous nous plaçons pour interpréter ce qui arrive ? Avec quelles lunettes lisons-nous les événements de la vie quotidienne ? Avec les lunettes de la science ? Il y a des spécialistes des plaques tectoniques qui s'expriment là hein, sur la question turque et syrienne pour nous dire pourquoi. Avec les lunettes de la raison, de la psychanalyse, pourquoi pas, avec les lunettes du journalisme. Alors là, c'est Radio France, c'est RTL, c'est CNews, les lunettes du complotisme, celles d'une théologie, celles d'une église, les lunettes d'un pasteur. Par quel chemin passons-nous pour atteindre l'explication qui va nous satisfaire, nous donner aussi de la contenance dans les discussions ? Et en guise de toute réponse, Jésus retourne la question. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres ? Jésus sait ce qu'on attend de lui. On attend de lui une réponse claire qui dirait que si cette tour est tombée sur 18 personnes, c'est qu'il y en avait un là-dedans au moins qui avait quelque chose à se reprocher. Voilà. Et les innocents qui ont péri dans l'effondrement ? Non mais, tout cela n'a aucun sens. Le Dieu de la grâce et de l'amour peut-il agir de cette façon ? Et la question de Jésus aux gens, elle peut être reformulée en deux mots. Arrêtez de délirer. Arrêtez de chercher des explications qui vous arrangent. Là où il n'y en a pas. Si vous avez un accident de voiture, ce n'est pas un jugement de Dieu. Si vous attrapez un cancer, ce n'est pas une attaque du diable. Alors, oui, quelle est la leçon à tirer de la tour de Siloé ? Vous, que dites-vous ? Voilà la question de Jésus. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Et comme ils n'ont aucune réponse à donner, en tout cas dans le texte, c'est le silence, Jésus va les mettre maintenant sur la voie. Une autre lecture de ce qui se passe, des enjeux. Le message est d'ailleurs dur, frontal, brutal. Il nous faut changer de vie. Parce que sinon, il va nous arriver la même chose. Voilà ce qu'il répond. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Si nous lisons trop vite cette parole de Jésus, nous risquons de conclure que si nous ne nous convertissons pas immédiatement, si nous quittons cette salle ce matin sans avoir fait l'acte de foi qui nous met à l'abri, eh bien, un jugement du ciel, une tour, un accident de la route, un virus, un tremblement de terre, tout ce que vous voulez, nous tombe dessus et c'est trop tard. Et je crois que c'est là une très mauvaise compréhension de la parole de Jésus. Ce que dit Jésus, ce que j'en comprends en tout cas, c'est que le vrai danger de cette vie n'est pas là où on croit qu'il se trouve. Ce qui est dangereux, ce n'est pas de mourir, c'est de mourir seul. De mourir coupé de la relation avec Dieu. De mourir sans espérance. C'est la mort spirituelle qu'il faut redouter. Et celle-ci se joue ici et maintenant. À chaque fois que je croise le chemin du Christ, il me dit, sois attentif. Que tu aies une vie tranquille. Une vie sans problème, que tu sois au contraire dévoré par l'angoisse, que tu sois en bonne santé ou rongé par la maladie, l'enjeu est immense. Et mon message est tout simple. Change de vie, maintenant que je suis en ta présence. Ouvre-toi à l'appel de Dieu. Et tu échapperas à ce chaos qui te dévore du dedans. Alors tu vivras. Tu vivras quand même il t'arriverait de mourir. Jésus nous invite, effectivement, vous l'avez senti, à de l'urgence, à ne pas toujours reporter au lendemain ces affaires-là. Le moment de la rencontre avec Dieu peut être ici et maintenant. Le moment de notre repentance. Le moment aussi de l'abandon de toutes ces explications. C'est peut-être maintenant pour vivre une conversion intérieure. Pour vivre un retournement de notre être intérieur dans la présence du Christ. Jésus ne s'intéresse pas aux causes des catastrophes, mais il prend appui sur elles pour attirer l'attention des gens sur l'unique véritable enjeu de l'existence humaine. Attention, sois vigilant, ne construis pas ta vie sur l'illusion du risque zéro, sur celui de la pleine conscience, celle qui te donne toutes les réponses à toutes tes questions. Mais en passant par l'expérience de la mort à toi-même, de l'abandon de ta vie à la vie de Dieu, par l'expérience du lâcher-prise, celle du saut dans le vide, où il ne te reste plus qu'une chose à faire, saisir la main que Dieu te tend. Là se trouve ton salut. Alors, laissons nos vies être recentrées sur la parole et sur la vie du Christ. Choisir d'être chrétien, ce n'est pas choisir une religion. Ce n'est pas choisir les réponses qui nous arrangent. Une église qui est au format de nos attentes. Un pasteur super. Des amis croyants, des frères et des sœurs qui nous aiment. Ce n'est même pas de choisir de faire le bien autour de nous. Devenir chrétien, c'est répondre à l'appel de Dieu qui nous appelle à changer de vie. Lui qui désigne Jésus comme la source de cette vie nouvelle. C'est dire oui à cette vie-là. Et quand bien même la mort nous enlèverait le souffle, la santé, la liberté, nous resterions vivants. Vivants de cette vie abondante et inépuisable qui jaillit de la présence du Christ. Voilà ce que nous dit cet échange brutal, frontal, entre Jésus et les passants. Il est urgent pour chacun de nous de faire l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Urgent de mourir à soi-même. Urgent de naître de nouveau en Christ. Il est urgent de tirer les conséquences pour soi à propos de ce qui arrive dans le monde au lieu de disserter à peu de frais sur le sens des choses et de la vie. Cette question-là, le prophète Amos l'avait posée. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu ? Et si tu ressens dans cette question le besoin urgent de répondre, Seigneur, oui, c'est de toi seul que j'ai besoin, alors tu es vivant, mon frère, ma sœur, de la vie du Christ. Choisis la vie afin que tu vives. Amen.